Chapitre 4. Les deux chemins. Voici que je mets devant vous deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Livre de Job. À l'ombre de la liqueur et de l'orgie, croit la fleur ensorcelée du délit. À l'ombre du feuillage nubile de passion, la vermine sylvestre et le reptile rampant forment leur nid. Au milieu de la bourrasque et de la bacchanale, Belzébuth apprit à jouer de grosses sommes d'argent et l'argent et le péché originel sont coexistants, les deux sont la tragédie de l'humain. Le jeu, amené à la ruine et au suicide, la dame élégante comme le seigneur rusé, l'homme qui travaille comme le joueur invétéré bohème. Belzébuth apprit le vice du jeu et il riait, joyeux, dans la bacchanale, dans le son sec des dés et le déboucha joyeux et triomphant d'une autre bouteille. Mais voici que jamais ne manquait dans l'orgie, un personnage mystérieux, ce fatidique personnage au visage sinistre, était vêtu d'une tunique noire dans le style de l'Arcadie et, à ses oreilles, reluisaient toujours de grandes boucles d'oreilles d'or. Quel mystère enveloppait-il ce sinistre personnage? Était-ce par hasard un génie de lumière venu de lointaines sphères? Était-ce par hasard quelque lumineux seigneur de la flamme, ou un antique habitant de quelque époque historique défunte? Non, rien de cela, cet homme était seulement un horrible et monstrueux transgresseur de la loi, un mage noir. Belzébuth apprit de ce mage noir certaines clés secrètes pour gagner dans le vice du jeu. L'amitié se mêlait à la reconnaissance et l'orgie, et ainsi le sinistre personnage conduisit peu à peu sa victime sur le chemin noir. Les hommes de l'époque de Saturne utilisaient des corps astraux et étaient de haute taille. En ce temps-là, nos corps humains actuels n'étaient que des germes avec des possibilités de développement. Les actuels intimes humains n'étaient alors que des étincelles virginales qui animaient le règne minéral. Mais Belzébuth était un homme de cette époque, car il avait un être et savait qu'il l'avait. S'il avait continué sur le chemin étroit et exigu qui conduit à la lumière, il en serait arrivé à être un seigneur du mental, un fils du feu, comme ses amis les plus chers. Mais la liqueur, le plaisir, le feu et la fornication, avec leurs fleurs exotiques à la beauté maligne, et séduquent et hypnotisent le faible et l'emmène à l'abîme. Belzébuth se fait l'ami intime du sinistre personnage qui, avec ses clés miraculeuses, le rendait triomphant dans le vice du jeu et, à la fin, un jour il fut tristement préparé pour recevoir la première initiation de mage noir dans un temple ténébreux. Son maître lui avait fait des promesses ineffables, il lui avait tant parlé de l'amour et de la justice qu'il était impossible de douter de lui, d'autant plus qu'il l'avait toujours fait, avec ses secrets merveilleux, sortir triomphant dans le jeu. Comment les étudiants de l'école à mort d'aujourd'hui, pourraient-ils douter de l'imperator de leur ordre sacré ou de leur saint rituel? Celui qui va tomber ne voit pas le trou. Le rituel de première initiation ténébreuse que le disciple Belzébuth reçut dans le temple fut justement ce premier rituel que les étudiants d'Amok réalisent dans leur chambre pour recevoir le premier degré. De même qu'après le rite, l'étudiant de premier degré Amok reste esclave du gardien du seuil, de même Belzébuth resta esclave du gardien du seuil et commença sa carrière de démon. Il se passe que pendant les heures du sommeil ordinaire, Verita, le guru noir, emporte les disciples du premier degré noir en corps astral, et les soumet à un rite très curieux. Voyons le disciple tourne plusieurs fois autour d'une table en frappant dessus et ensuite, il reçoit une brique des mains de l'initiateur, qui prononce cérémonieusement ces mots sous le diable, n'oublie pas. Ensuite, le disciple enterre la brique dans le sol. Cette cérémonie symbolise le fait que le pauvre disciple a posé les fondations de son discipulat noir et que maintenant, il doit obéir aux ordres de la fraternité noire. Après cela, on fait subir à la victime ingénue sur les chakras principaux de la tête certains traitements occultes afin de le contrôler pour la fraternité noire et on lui applique sur la nuque une lentille en forme d'île pour influer sur les centres importants de son subconscient. Quand le disciple s'éveille dans son lit, il ne rapporte aucun souvenir de ce qui s'est passé en astral. Les mages noirs ont leur mystique, et croient toujours fermement qu'ils marchent sur le bon chemin. Aucun mage noir ne croit marcher sur le mauvais chemin. Le chemin de la magie noire est le chemin large rempli de vices et de plaisirs. Marilla, la grande mage noire remplie d'une beauté délicieuse et fatale, avec sa voix enchanteresse et son visage tendre, se faufilait, agile et légère sur le tapis moelleux des grands et splendides salons de la plus vieille aristocratie européenne. Sa voix séductrice résonnait dans la fête comme un poème d'amour, comme un baiser d'ombre, comme une musique ineffable. C'était quelque chose comme la romance d'une mélodie, ou le miraculeux enchantement d'une symphonie de Beethoven. C'était Marilla, la grande mage, la splendide dame de toutes les cours d'Europe. Les 60 hommes de la poêle, avec leurs chevelures chenues, ressemblaient un peu à un jardin de blanches marguerites entre les parfums, les soies et les fragues des palais magnifiques. Les 60 hommes de la poêle étaient un jardin de blanches fleurs où soufflait une haleine de mort. Le testament des 60 Elona fut un testament de ténèbres et de mort. Et toi, Angela, avec ce magnifique habit à la longue traîne, tu ressembles à la promise anxieuse d'un amant qui n'arrive jamais. Tu sembles la nymphe mystérieuse d'un délicieux labyrinthe enchanté. Tu parais une beauté inoubliable entre le velours de la nuit jonchée d'étoiles. Combien de fois te vis-je ? Oh ! Angela, telle une déesse fatale, parmi les miroirs ensorcelés de cet élégant salon de la sorcellerie, où tu étais reine du mal ? Comment s'appelle, ô, enfant du mal, cette splendide demeure semblable à une idylle ? Ah ! Ces javeux mots, le salon délicieux de la pourpre et de la soie. Là, ne règne que l'amour et la beauté fatale de l'abîme du mal ? Chaque dame, ici, est un poème, chaque sourire est une idylle et chaque danse une romance d'amour inoubliable, la taille flexible et délicate de chaque beauté maligne, est une bayadère dans la silhouette d'un paysage mystérieux. André Hamlet, le riche et fastueux mage noir de la Chine, dit que l'être humain est un ange et qu'en conséquence, il n'a aucune raison de souffrir. Et il conseille toujours à ses amis de se mêler à l'aristocratie, de se vêtir comme des princes et d'avoir beaucoup d'argent. Chuanzi, le couminoir, quand il parle en termes sociaux, dit que ses disciples doivent être triomphateurs, et que le disciple qui ne serait pas un triomphateur, ne peut être son disciple. Les mages aiment la fornication, et comme s'ils essayaient de se justifier, ils disent que c'est un élan divin. Les mages noirs savent trop que les âmes qui s'éloignent de l'intime, se désintègrent dans l'abîme, mais alors, Chuanzi, porte-voix des enseignements des frères des cavernes ténébreuses, dit que l'âme est uniquement un vêtement, et qu'elle doit se désintégrer parce qu'à eux, seuls les intéresse l'être réel, et qu'ils aspirent à construire leur nid dans l'absolu. C'est là, la mystique dangereuse de la magie noire. N'importe quel néophyte en science occulte tombe facilement, dans cette philosophie à la beauté terriblement maligne et séductrice. Les mages noirs détestent le Christ, et le considèrent comme mauvais personnage. Chuanzi, le KH noir, dit que le Seigneur Christ n'était pas un initié, car aucun initié ne se laisse suivre. Étroite est la porte et exiguë, le chemin qui conduit à la lumière. Eh bien peu sont ceux qui le trouvent, le chemin qui conduit à la lumière, est rempli de houx et d'épines, beaucoup sont les appelés, peu sont les élus. Et, dans notre évolution terrestre, la plupart des âmes se perdirent. Pour elles, le chemin noir de vice et de plaisir, fut plus facile et accessible. L'évolution humaine a échoué. Seule une poignée d'âmes s'unira à l'intime, et entrera au royaume angélique. La plupart des âmes humaines se désintégrera dans l'abîme à travers les siècles, et les œufs accent aigus ou NS, parmi les ténèbres extérieures, les pleurs et les grincements de dents. Christ, le divin rédempteur du monde, vint ouvrir le sentier de l'initiation publiquement, pour l'humanité toute entière. Tout le via crucis du divin Rabbi de Galilée, est le chemin de l'initiation que l'initié, doit parcourir sur son chemin vers le Golgotha de la haute initiation, où l'âme s'unit à l'intime et s'immortalise, rejoignant les âmes ineffables du Pléroum. Une torpeur de siècle impénétrable pèse sur les augustes mystères sacrés. Le Verbe fait chair gît dans le fond de notre âge sacré, attendant l'instant suprême de notre résurrection. La doctrine sainte du Sauveur du monde brille avec le fiat lumineux et spermatique du premier instant, et la Vierge d'Aaron demeure dans l'attente du passage de la couleuvre. La Sainte Église gnostique est la gardienne zélée de la Pistis Sophia où se trouve écrit « Tout l'enseignement du divin Rabbi de Galilée est, dans le fond des âges, brille, resplendissant, le très antique et douloureux chemin par où sont passés tous les maîtres de l'humanité ».